RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, c'est une machine électorale à nul autre pareil. Imaginez, on additionne la population américaine avec celle de l'Union européenne et de la Russie. Eh bien, le compte n'y serait pas. Depuis hier, 968 millions d'Indiens sont appelés à voter. Ils doivent élire 543 représentants. Tout cela ne se fait pas en un jour. Le scrutin s'étire jusqu'au 1er juin. On parle de marathon électoral, de scrutin XXL qui nous font dire que l'Inde est la plus grande démocratie au monde. Mais au-delà des chiffres et des superlatifs, c'est le terme de démocratie que nous interrogeons ce matin à travers le reportage de notre correspondant en Inde dans un instant. La prostitution, à votre avis, est-elle un métier comme les autres ? Les travailleurs du sexe doivent-ils toujours opérer dans cette zone d'ombre ? Trottoirs, lieux interlopes, maisons spécialisées, internet et gagner leur vie sans la déclarer. Activités souvent illégales, bien souvent tolérées. Certains pays font le choix de l'acceptation et de la transparence. Ainsi la Belgique, où le travailleur du sexe pourrait bien devenir un auto-entrepreneur comme n'importe quel autre travailleur indépendant. Pour comprendre, il faut entendre le reportage de Laure Broulard en deuxième partie d'émission. Elle sera aussi en ligne avec nous. Les dirigeants de New Delhi et du Jharkhand emprisonnés, les partis d'opposition harcelés par les contrôles fiscaux, plus d'une centaine de députés exclus du Parlement, déjà favorisés par les médias, dotés de très importants comptes de campagne et portés par une popularité élevée, Narendra Modi assène le coup de grâce à l'opposition indienne. Mais les électeurs, eux, sont encore indécis. Dans la capitale, l'opposition tente de les motiver en présentant cette élection comme la dernière pour sauver la démocratie. Entre le BJP et l'opposition, duel à mort à New Delhi, c'est un grand reportage de Combastan.
La nuit tombe sur Rose Avenue. Cette artère de New Delhi, les journalistes la connaissent bien. De nombreux partis y ont leurs QG nationaux, à commencer par celui du BJP, le parti du peuple indien de Narendra Modi. Cet imposant bâtiment, en pierre ocre flambant neuf, se veut le plus grand siège politique du monde. Mais ce soir-là, c'est vers un local beaucoup plus modeste que les yeux sont tournés.
Nous sommes rassemblés au siège de la Aam Aadmi Party. Les militants se sont donné rendez-vous car un de nos députés, Sanjay Singh, a été libéré par la Cour suprême indienne. Cela fait 6 mois qu'il était en prison, mais toutes les charges ont été levées contre lui. C'est un des fondateurs de notre parti, apprécié de tout le monde.
L'Aam Aadmi Party, parti de l'homme ordinaire en hindi, et l'AP pour les intimes, est né en 2012, alors qu'un grand mouvement de révolte contre les élites corrompues secoue l'Inde. Ce parti citoyen séduit des Indiens divers, prônant une gouvernance éthique et des services publics renforcés. En 2015, l'Aam Aadmi Party s'empare de la symbolique région capitale de Delhi, Rajni Oberoi, qui s'exprime, est présidente de la branche femme du parti.
Cela fait au moins 7 ans que je milite avec la AAP pour servir mon pays. À New Delhi, ils ont développé les écoles publiques et les cliniques de santé. Ils ont montré que c'est possible en Inde et dans le monde. Ce soir, nous fêtons une première victoire, mais bientôt, une par une, toutes les figures de la AAP vont sortir de prison.
Fébrile mais joyeux, les militants guettent leur héros à la télé depuis les écrans installés dans la cour du siège du parti. Finalement, des klaxons retentissent, c'est Sanjay Singh qui entre en voiture sous les lancers de fleurs. Le lion, comme le surnomme la foule, monte sur une petite scène et prend la parole avec émotion.
Merci à tous les militants de l'AAP qui luttent contre la dictature du BJP. Nous n'avons pas peur des menaces de Narendra Modi. Ils peuvent nous jeter en prison, mais pour quel crime ? Est-ce que notre faute est de fournir une éducation de qualité, des soins, de l'eau, des bus gratuits à 20 millions d'habitants de Delhi? Mes amis, l'heure n'est pas à la célébration ce soir, mais au combat. Notre chef, Arvind Kejriwal, doit être libéré.
Arvind Kejriwal est le fondateur de l'Aam Aadmi Party et le ministre en chef de Delhi. En mars, il a été arrêté par l'Enforcement Directorate qui lui reproche d'avoir détourné de l'argent, des taxes sur l'alcool. Le gouvernement central assure que cette arrestation n'a rien à voir avec le calendrier électoral, mais ici, cette agence fiscale est vue comme l'organe de terreur politique de Modi. D'icône politique, Kejriwal va devenir un martyr, prédit Charan, 50 ans.
Beaucoup de juges sont aux ordres de Narendra Modi. Les Indiens savent que Kejriwal est un homme intègre. Il ne cherche pas à s'enrichir. Sa popularité dérange, donc le BJP veut le piéger. Tous les partis d'opposition font face à des menaces similaires. Et c'est pour ça qu'ils sont venus à sa défense et veulent s'allier contre Modi, qui se comporte en dictateur.
S'unir, cela fait un an que l'opposition en discute. En mars 2023, la star du parti du Congrès, Rahul Gandhi, a été exclu du Parlement pour une obscure procédure de diffamation. En décembre, la plus grande partie des députés d'opposition ont été exclus à leur tour pour indiscipline. La liste n'est pas exhaustive, si bien que beaucoup pensent qu'il faut désormais faire front commun ou disparaître ensemble.
Mes amis, vous savez comment on peut truquer un match de cricket. Les élections approchent et Narendra Modi a choisi les arbitres. Dans notre équipe, avant même le début du match, deux joueurs phares ont été emprisonnés. Arvind Kejriwal et Hemant Soren ne sont pas là aujourd'hui. Mais ils sont avec nous, dans nos cœurs. Cette élection est pour sauver l'Inde et notre constitution. Et nous allons nous battre. Vive l'Inde!
New Delhi, 31 mars, sous un soleil déjà écrasant, Rahul Gandhi prend la parole devant des milliers de personnes. Avant lui, Arvind Kejriwal, depuis sa cellule, a pu faire passer un message lu par sa femme sous les applaudissements. Des figures de l'Aam Aadmi Party, du parti du Congrès, du parti DMK ou du parti communiste ont exhorté la foule à garder espoir. Tous sont membres de la coalition India, qui vise à empêcher un troisième mandat de Narendra Modi.
En ce moment, la démocratie indienne lutte pour sa survie. Les agences gouvernementales sont dévoyées pour éliminer les leaders de l'opposition. Les journalistes aussi sont ciblés. Il s'agit tout simplement de se débarrasser de l'opposition. C'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Le combat contre un régime qui veut transformer l'Inde en autocratie.
Parmi la foule, de nombreux militants, dont certains portent des chaînes autour du cou ou brandissent des photos d'Arvind Kejriwal derrière les barreaux. Assise près d'un ventilateur, Ayushi, 41 ans, a tenu à participer avec son mari et des amis.
J'ai milité, mais il y a fort longtemps. Après 5 ans, je retourne dans l'arène parce que moi et mon mari sommes très inquiets. Beaucoup d'entre nous le sont, mais ont peur d'exprimer leur opinion. Je suis plutôt proche de l'AAP, mais aujourd'hui je milite pour l'association India. C'est vrai que les partis réunis ont des différences idéologiques, mais un tel rassemblement me donne l'espoir que les Indiens vont s'unir et se battre contre ce régime corrompu.
Des différences, et peut dire que les partis de la coalition en charrient, c'est en tirant à boulets rouges contre le parti du Congrès lorsqu'il était à la tête du que l'Aam Aadmi Party a construit sa légende. Certains tiennent donc le parti d'Arvind Kejriwal pour responsable de l'accession au pouvoir de Narendra Modi. Une rancœur tenace que les militants s'efforcent de minimiser, comme Hanish Saini, chargé des minorités pour le parti du Congrès à New Delhi.
Nous ne sommes pas là pour diviser la nation, mais comparer. Le Premier ministre Rajiv Gandhi, du temps du Congrès, a ouvert l'Inde à Internet et à l'économie mondiale avec des gens compétents au gouvernement. Aujourd'hui, M. Modi récompense les pires criminels de l'Inde. La candidate du BJP à New Delhi, Bansuri Swaraj, a défendu en tant qu'avocate des milliardaires escrocs. N'oubliez jamais que ce parti voue un culte à l'homme qui a assassiné Gandhi après l'indépendance.
Également passée sous silence lors de cette démonstration d'unité, l'épineuse question du partage des sièges. Pour battre le BJP, les partis d'opposition ont intérêt à présenter un candidat unique dans chacune des 543 circonscriptions du pays. Mais par endroit, aucun n'accepte de céder sa place et les prétendus alliés vont donc se disputer les votes. À Delhi, un accord a été trouvé. 4 circonscriptions sont réservées à l'AM Aadmi Party et 3 autres au Congrès. Le député AM Aadmi Party, Rajneesh Daya, se veut optimiste.
L'opinion doit prendre conscience de la gravité de la situation. Avec son argent, le BJP contrôle la plupart des médias, mais ils ne peuvent pas contrôler les réseaux sociaux. Avec ce genre de rassemblement, nous envoyons un message à la nation. Les chefs de parti sont unis. Quiconque aime la paix ou tout simplement l'Inde peut rejoindre notre alliance. Ainsi, le BJP n'obtiendra pas la majorité pour former un gouvernement.
Les attaques contre l'opposition en pleine campagne ont réveillé des partis longtemps concurrents qui trouvent dans la défense de la démocratie le ciment pour parler d'une seule voix. Mais cette croisade est-elle crédible pour les électeurs indiens ? Tavleen Singh, analyste politique et auteur, en doute.
C'est vrai que les médias sont sous pression. Les journalistes doivent peser leurs mots. Mais pour les Indiens, cela n'a rien de nouveau. D'autre part, à l'exception des communistes, tous les partis d'opposition sont gérés par des clans familiaux qui donnent l'impression d'une dynastie. Et les Indiens ne les trouvent pas donc crédibles pour donner des leçons d'éthique. Modi a montré que l'Inde pouvait être une puissance stable et les Indiens ferment donc les yeh sur ces tendances autoritaires.
Nous quittons le raout politique pour déambuler dans le marché de Sarojini Nagar, un de ces quartiers où tout New Delhi se côtoie. Sur le trottoir, un bruit de machine à coudre attire notre micro.
Je suis tailleur de rue depuis 12 ans dans ce marché. Je gagne à peu près 6 euros par jour. Et il me faut dépenser pour les transports, le logement, mes 4 enfants, autant dire que je m'en sors tout juste. À Delhi, je soutiens l'AM Aadmi Party, depuis toujours, tous mes amis aussi, car ce parti est au service des pauvres, contrairement aux autres. Arvind Kejriwal sera réélu, c'est certain.
Cet artisan musulman est un inconditionnel d'Arvind Kejriwal. Ce n'est pas tant pour protester contre son arrestation que parce que depuis que l'AM Aadmi Party dirige New Delhi, son existence s'est améliorée. Pas loin, son voisin qui vend de petits instruments de musique acquiesce.
Kejriwal a changé la vie des travailleurs journaliers comme nous. La police a arrêté de nous harceler. Les rues sont plus propres. Mes enfants vont dans la même école que celle où j'ai étudié. Mais la qualité de l'enseignement s'est nettement améliorée. Pour nous, les pauvres, c'est ça qui fait la différence quand on vote.
À Sarojini Nagar, la défense de la démocratie est un sujet sensible, à moins qu'elle ne soit pas un sujet du tout. Cependant, Arvind Kejriwal fait consensus comme un politicien au service des habitants de Delhi, même parmi certains soutiens de Narendra Modi comme Ram Singh, 68 ans, qui joue aux cartes dans un parc.
J'étais policier pendant 40 ans et je suis retraité aujourd'hui. Je soutiens Narendra Modi lors de ses élections nationales. Sa politique étrangère est bonne et il a développé les infrastructures du pays. Kejriwal aussi fait du bon travail pour Delhi. J'ai voté AAP lors des législatives locales. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi il a été arrêté. Il n'y a pas vraiment de preuves de sa culpabilité.
Pas loin, un partisan du Premier ministre fait moins dans la nuance.
Cela fait des années que ces partis d'opposition s'accusent mutuellement de corruption. Et maintenant qu'ils sont rattrapés par les affaires, ils vont sauver la démocratie ? Moi, je dis qu'ils cherchent à sauver leur tête. Narendra Modi, lui, ne travaille pas pour un parti, mais pour la nation. Et le peuple l'a compris.
L'arrestation d'Arvind Kejriwal jette un certain trouble à New Delhi. Alors que beaucoup d'habitants confient ne pas avoir décidé pour qui voter, le BJP redoute une vague de sympathie en faveur de l'Ahmadmi Party. En 2019, le Parti nationaliste hindou a raflé les 7 sièges de la capitale et il entend les conserver. Sa stratégie, personnaliser l'élection autour de la figure de Narendra Modi.
Mes frères, mes sœurs, les enfants, les anciens, vous tous qui êtes rassemblés ce soir, vous faites partie de la famille de Modi. C'est un leader comme il n'en existe que tous les 100 ans. En 10 ans, il a métamorphosé l'Inde, qui est passée de la 11e à la 5e puissance mondiale. Je vous demande donc de lui donner un troisième mandat à la tête du pays. Le 25 mai, dans l'isoloir, pressez le bouton Lotus, choisissez le BJP.
Au son des tambours, Bansuri Swaraj se fraye un chemin dans les ruelles du quartier de Motibagh et s'adresse aux habitants dans un parc. À 40 ans, cette avocate est la candidate du BJP au sud de New Delhi, circonscription qui concentre les institutions politiques et les quartiers aisés. Elle n'a pas été choisie par hasard. Selon l'Ahmadmi Party, Bansuri Swaraj a monté le procès qui a conduit Arvind Kejriwal en prison. Elle préfère se présenter comme une candidate désintéressée.
Cette candidature, ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Cela fait 10 ans que j'exerce comme avocate. J'ai travaillé pour le parti, mais je ne nourrissais pas d'ambition politique. D'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à être choisie comme candidate à New Delhi. Je l'ai appris comme tout le monde, alors que je regardais la télévision avec mon père. Alors je me suis agenouillée devant les dieux, dans un temple, et j'ai commencé le travail.
Bansuri Swaraj nous rencontre dans sa voiture. Entre deux meetings et une participation à un programme religieux hindou, il est 23h, le véhicule fonce à travers les artères vides de la capitale et la candidate décoche ses flèches envers son ennemi.
New Delhi est un magnifique mélange de toute l'Inde. On trouve des habitants de toutes conditions, de toutes les régions, qui parlent toutes les langues. Mais comme vous le savez, c'est l'Ahmadmi Party qui dirige New Delhi. Et le ministre en chef, Arvind Kejriwal, par pur cynisme, refuse de leur faire bénéficier de très importantes aides du gouvernement central. Par exemple, une assurance médicale. Tout ça parce qu'il veut mettre en avant son programme de clinique publique défaillante.
Également dans la course à New Delhi, le parti du Congrès, qui a dominé la politique en Inde depuis l'indépendance, mais décline depuis l'élection de Narendra Modi, lui aussi affirme être ciblé par les agences gouvernementales. Pavan Khera, le responsable média du Parti du Congrès, nous reçoit pour parler de la stratégie de la coalition.
Il n'y a pas qu'Arvind Kejriwal. Le dirigeant du Jharkhand a aussi été emprisonné et nos comptes en banque ont été gelés. Tous ces abus de pouvoir flagrants du gouvernement vont se retourner contre lui. Et croyez-moi, ces élections vont être une surprise pour le BJP, pas pour l'opposition. Les Indiens voient bien désormais que le BJP protège des criminels, que le chômage frappe à leur porte, que la démocratie est en sursis et que les médias leur montrent une réalité parallèle. Ils savent que l'heure du changement est venue.
Quant aux divisions sur la répartition des sièges entre partis, l'homme se veut rassurant.
Nous sommes en train de tomber d'accord dans presque tout le pays. Les discussions progressent dans le Bihar, dans le Maharashtra, au Bengal occidental, c'est vrai, nous n'avons pas réussi à nous entendre. Ça prend du temps pour différents partis d'enterrer la hache de guerre, mais cela va se faire. Car si l'on perd, dans 5 ans, vous ne serez pas là à me poser des questions. Vous serez renvoyé dans votre pays et moi, je serai en prison.
Difficile de prédire à quel point ces ultimatums catastrophistes peuvent influencer les électeurs. Après 10 ans de règne de Narendra Modi, certains habitants de New Delhi confient cependant leur désillusion comme ce petit épicier.
En 2014, j'ai voté pour Narendra Modi car je pensais qu'il allait améliorer notre existence. Mais le coût de la vie a explosé et il est très difficile de vivre pour les classes populaires. Malgré tout, en 2019, je l'ai soutenu à nouveau. Par contre, on ne peut pas juger en 5 ans. Et puis, tous les médias nous répétaient que tout allait pour le mieux. Mais désormais, les gens ont compris que ce gouvernement n'est pas bon pour le pays, donc mon vote ira cette fois-ci pour le parti du Congrès.
Selon une récente étude du Centre d'études des sociétés en développement, ce sont d'abord le chômage très élevé et l'inflation qui préoccupent les électeurs, loin devant les questions religieuses associées au BJP, mais aussi la démocratie. Pour Tavleen Singh, l'opposition se trompe en espérant capitaliser sur ces arrestations.
L'opposition aurait dû plus critiquer la gestion arbitraire du Covid, attaquer Modi sur le front du chômage, qui est un problème majeur. Les thèmes abstraits comme la démocratie ne prennent pas. Il faut prouver aux Indiens qu'on va les aider sur des problèmes terre à terre, de l'électricité, de l'eau potable. Aujourd'hui, Modi est celui qui est crédité pour cela.
Entre l'opposition, qui alerte sur la mort de la démocratie, et Narendra Modi, qui vante une Inde triomphante un peu imaginaire, deux récits très opposés, le verdict des électeurs lors du plus grand vote du monde sera connu le 4 juin.
En Inde, entre le BJP et l'opposition, duel à mort à New Delhi. Bonjour, Combastin.
Bonjour Patrick.
Vous signez ce grand reportage, vous êtes le correspondant de RFI en Inde. Un mot tout d'abord sur la longueur de ce scrutin, plusieurs semaines. Comment ça se passe concrètement ?
Effectivement, elles ont commencé donc le 19 avril et elles se termineront le 1er juin, ça fait presque un mois et demi. Elles sont divisées en fait en 7 phases de vote qui sont réparties en 7 zones géographiques pour des raisons logistiques évidentes, puisqu'on parle presque d'un milliard d'électeurs appelés aux urnes et qu'il n'est pas possible d'avoir les infrastructures pour qu'ils votent tous le même jour.
C'est donc une élection au long cours. Est-ce que ce scrutin, il est palpable pour les Indiens ? Au quotidien, beaucoup de meetings, beaucoup d'affiches, beaucoup de spots, ou alors c'est assez calme ?
Alors en toute honnêteté, moi je suis arrivé juste après la réélection de Narendra Modi en 2019, donc c'est la première fois que je couvre ces législatives nationales, et mon sentiment, je suis un peu surpris. Ce n'est pas si visible que ça. D'abord parce que, comme on l'a dit, c'est tellement étalé que si on se trouve dans un état où le vote est dans 3 semaines, la campagne ne fait peut-être pas son plein. Et puis d'autre part, parce qu'en fait, la loi indienne stipule qu'on n'a pas le droit d'afficher le visage des leaders politiques durant la campagne. Donc on pourrait s'imaginer une Inde placardée du visage de Narendra Modi, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas.
Comme on l'a compris, une élection au long cours, mais pas visible simultanément à l'échelle du pays. Pour autant, est-ce que les gens autour de vous en parlent beaucoup et librement ?
Alors, c'est quand même visible lorsqu'il y a de grands rassemblements, des meetings politiques en Inde. À ce moment-là, les rues sont recouvertes d'affiches et on parle, voilà, c'est à l'image de l'Inde, on parle de dizaines de milliers de personnes qui viennent écouter leurs leaders politiques. Donc là, c'est géant. Pour le reste, je pense qu'entre amis, lorsqu'on est en confiance, on parle beaucoup de politique. Les Indiens adorent ça. Ils ont tous des avis différents. Ils débattent entre personnes de différents bords. Par contre, en tant que journaliste, j'ai senti une certaine méfiance à exprimer une parole dans un média. Ce qui m'a choqué particulièrement, c'est deux personnes qui ont refusé de s'exprimer en m'expliquant que si au travail on apprenait par exemple qu'ils avaient participé à un meeting de l'opposition, ils pouvaient être tout simplement virés. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai aujourd'hui dans l'Inde, mais même si c'est quelques personnes, ça dit quelque chose d'un climat de peur qui s'est installé quand même.
Combastin, lorsque vous avez couvert la campagne électorale et maintenant le scrutin qui est en cours, est-ce que le fait d'être un journaliste étranger, ça vous complique la tâche vis-à-vis des partis politiques ?
Alors sur la logistique, pas tellement. On accède facilement avec une carte de presse au rassemblement ou au QG du parti. Par contre, pour obtenir des interviews auprès de leaders politiques, il faut beaucoup insister. D'abord, évidemment, parce qu'ils sont en campagne et que ce n'est pas forcément leur priorité, mais aussi parce que je pense que le BJP en particulier part du principe que la presse étrangère lui est défavorable. Ils nous voient parfois comme des agents de l'Occident qui veulent ternir l'image de Narendra Modi et donc ils sont réticents à nous parler. Il faut insister beaucoup parfois.
Encore une question, Combastin. Est-ce que ces élections législatives se transforment en référendum pro ou contre Narendra Modi ?
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un peu le danger, si je peux dire, de cette campagne, puisqu'on a une opposition qui, avec des raisons qu'on peut trouver légitimes, crie que la démocratie est en train de mourir et que si elle ne gagne pas lors de cette élection, il n'y en aura peut-être pas d'autres en 2029. Donc voilà, un ultimatum très dramatique. De l'autre côté, voilà, un BJP qui est une machine de guerre électorale et qui présente l'Inde comme un pays triomphant, qui n'a jamais été aussi puissant, riche, doté d'infrastructures, etc. Et entre ces deux visions, ces deux diagnostics très antagonistes sur leur pays, je pense que certains Indiens ne s'y retrouvent pas vraiment, parce qu'on ne leur parle finalement pas beaucoup de leurs problèmes quotidiens, de terre à terre, qui sont l'accès à l'électricité, trouver un emploi, l'accès à l'eau, trouver un logement décent, etc.
Côme Bastin, correspondant de RFI en Inde. Merci, Côme.
Merci, Patrick.
Peut-on considérer la prostitution comme un métier ? En Belgique, la réponse est oui. Le Royaume est devenu en 2022 le deuxième pays au monde, après la Nouvelle-Zélande, à décriminaliser le travail du sexe. Une politique particulièrement souple qui permet aux travailleuses et aux travailleurs du sexe d'exercer en toute légalité, avec un statut d'auto-entrepreneur et de bénéficier de droits sociaux. Les prostituées, qui sont très majoritairement des femmes, pourraient même, à terme, devenir salariées. Belgique, faire de la prostitution un métier presque comme les autres, c'est un grand reportage de Laure Broulard.
Nous sommes rue d'Arscott, en face de la gare du Nord, à Bruxelles. Ici, la prostitution a pignon sur rue depuis des années. Assises derrière des dizaines de vitrines, des travailleuses du sexe en sous-vêtements et talons hauts attendent les clients. Entre deux bars à hôtesses, on pousse la porte des locaux d'Utsopi et Espace P. Ces deux associations défendent les droits des personnes prostituées. Elles ont été en première ligne de la lutte pour la décriminalisation.
Là, on est dans les locaux d'Utsopi qu'on partage avec Espace P, donc, qui reçoit pour des permanences ici.
Marianne Chargois, travailleuse du sexe, artiste performeuse et membre d'Utsopi.
La décriminalisation, il faut le voir comme quelque chose qui n'est pas en soi un événement législatif qui va changer du jour au lendemain la réalité. Des travailleurs du sexe, il faut le comprendre comme un verrou qui saute et qui permet de pouvoir donner une place tout simplement à toute une catégorie de la population qui vend des services sexuels pour vivre. L'État belge vient dire que nous méritons de la protection, que nous méritons d'être respectés, d'être considérés. Et c'est ça que vient dire en fait ce changement législatif aussi.
Avant la décriminalisation, les TDS n'avaient d'autre option que de travailler au noir ou en tant que masseuse ou serveuse. Elles ne risquaient pas d'être poursuivies, mais tous ceux qui faisaient à faire avec elles, comme les assureurs, les chauffeurs, les comptables ou encore les web designers, pouvaient être assimilés à des proxénètes et punis. Tout comme les propriétaires des vitrines qui louent leurs locaux aux prostituées, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il est possible, en tout cas théoriquement, de louer officiellement un espace de travail pour du travail du sexe. Avant la loi, ce n'était pas le cas, puisque un propriétaire qui louait un espace dédié à cette activité était considéré comme proxénète. Et donc, ça poussait donc à tout un tas de fonctionnements sur le côté, par-dessous, et donc qui donnait lieu à beaucoup d'abus, du coup, ce qu'on appelle le profit anormal, donc louer des espaces de travail à des prix démesurés, en fait, pour ce que c'est, etc.
Alors, pour moi, je voulais l'entendre.
Ici, les prostituées du quartier peuvent venir chercher une aide juridique ou des produits sanitaires. Elles sont toutes les bienvenues, qu'elles soient régulières ou occasionnelles, avec ou sans papier, des femmes, mais aussi des hommes et des personnes transsexuelles, travaillant dans la rue, chez elles ou dans des Airbnb, en tant qu'indépendantes, mais aussi parfois exploitées par des proxénètes ou victimes de réseaux de traite. Dan Bowens, le directeur d'Utsopi, est assis dans le bureau d'à côté.
La décriminalisation, en fait, c'est le but de chaque mouvement par et pour travailleurs et travailleuses du sexe. En fait, parce que dans beaucoup de pays, le travail du sexe est illégal, comme aux États-Unis. Mais dans d'autres pays, le travail du sexe en soi n'est pas illégal, mais il est rendu complètement impossible, comme en France et comme en Suède. Par exemple, en criminalisant le client. Donc ça veut dire que la TDS ne peut plus faire son travail dans un établissement, plutôt dans les parcs, sur les parkings et dans la rue. En fait, en gros, on voit que dans chaque pays où une partie du travail du sexe ou le travail du sexe lui-même a été criminalisé, en fait, on voit que ça a toujours des conséquences, disons, affreuses pour les travailleurs et travailleuses du sexe.
Sous l'impulsion de plusieurs parties, d'associations et d'experts, le pays a donc choisi de décriminaliser le secteur. Secteur qui compte entre 3 000 et plus de 20 000 personnes, selon les estimations. Les prostituées peuvent donc désormais déclarer leur activité et bénéficier d'une assurance maladie, de la retraite ou encore du congé maternité. En parallèle, les peines sanctionnant le proxénétisme, soit l'exploitation des travailleuses du sexe, ont été alourdies. Retour dans la rue, en face de la gare du Nord de Bruxelles. Une zone occupée par des jeunes femmes venues d'Europe de l'Est. Elles sont assises à deux ou trois par vitrine, sur des tabourets ou des chaises hautes. La plupart refusent catégoriquement les interviews. Celles qui acceptent de parler hors micro ne semblent pas au courant des changements liés à la décriminalisation. Deux rues plus loin, Muriel est sortie sur le pas de sa porte. C'est l'une des dernières travailleuses du sexe belge du quartier.
Muriel, c'est moi, oui.
Et vous avez quel âge ?
69.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici dans le quartier ?
Dans le quartier Nord. J'ai commencé derrière le Sheraton, j'avais 18 ans.
Elle a travaillé presque toute sa vie au noir, seulement déclarée comme masseuse pendant quelques temps. Pas assez donc pour avoir une retraite décente. Alors elle continue à recevoir des clients dans son carré. C'est ainsi qu'on appelle la petite pièce donnant directement sur la rue qu'elle loue pour quelques centaines d'euros par mois. À l'arrière, le lit est caché par un rideau noir. Quand on lui parle de décriminalisation, elle est sceptique. Pour elle, l'accès aux droits sociaux est une bonne nouvelle, mais pas forcément le statut officiel.
Qui nous laisse notre petite vie comme on a toujours été. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, ce qui est discret, on est heureux. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour être heureux, il faut vivre caché. C'est comme ça ! C'est triste à dire, pour nous, mais c'est ce qu'il y a de mieux, je crois. Qu'il nous faut la paix. Si tu fais la pute, c'est pour être justement en dehors de tout ce qui est les règles. Tu n'es pas là pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Donc tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai commencé ce métier, j'avais donc moins que 18 ans. Faire ce que je voulais.
Tu vas au fond ?
Eh ben, madame, ça. Va au fond. Oui, va.
Un client souhaite entrer, Muriel m'invite à partir. De l'autre côté de la rue, les carrés sont majoritairement occupés par des Nigérianes, des femmes particulièrement vulnérables car sans papiers et souvent victimes de réseaux de traite très structurés.
Quand on parle de réseau de prostitution, c'est un terme un peu générique mais qui recouvre une multitude de situations.
Sophie Gekeller est directrice de la Fondation Samilia, une association qui lutte contre la traite des êtres humains en Belgique.
Ça peut partir effectivement des réseaux hyper organisés, des réseaux basés sur les techniques vaudou qui sont organisés à partir du Nigeria principalement et qui contraignent par la peur et par les croyances des jeunes filles à venir se prostituer ici à Bruxelles. Ce sont des réseaux sud-américains dont on voit le développement de plus en plus important, avec certaines particularités comme par exemple à partir de l'Équateur des personnes transsexuelles qui sont acheminées en Belgique pour être exploitées dans la prostitution. Et là, ce sont des réseaux organisés. Par contre, on assiste en Belgique maintenant de plus en plus au phénomène des lover boys, qui sont des garçons jeunes ou pas jeunes, qui séduisent des jeunes filles dans le but de les exploiter sexuellement et donc par des discours amoureux, les amener à se prostituer à leur profit.
Il est donc parfois difficile de tracer une ligne claire entre ce qui relève de l'exploitation ou non. Selon Sophie Gekeller, la décriminalisation pourrait donc ouvrir la porte à davantage d'abus. La Fondation Samilia estime qu'en Belgique, une jeune fille sur trois a déjà été approchée en vue de services sexuels tarifés. Autre point d'inquiétude, le sort des prostituées qui ne pourront pas prétendre à un permis de travail.
Oui, notre inquiétude principale, c'est l'impact de cette loi sur la traite des êtres humains, puisqu'il faudra un permis de travail, forcément, pour travailler dans ces établissements-là, que les personnes qui viennent, comme je vous l'ai dit, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, n'ont pas de permis de travail. Qu'est-ce qu'il adviendra ? Est-ce qu'elles obtiendront un permis de travail pour travailler exclusivement dans le domaine du sexe en Belgique ? Est-ce qu'elles n'en recevront pas, mais devront travailler de manière clandestine ? Et là, elles seront d'autant plus victimes de réseaux de prostitution. Tout ça, ce sont des questions à apprécier.
Des inquiétudes partagées par certaines associations féministes pour qui la prostitution est toujours une exploitation et une conséquence du système patriarcal. Mais pour les défenseurs de la décriminalisation, il s'agit surtout de protéger les travailleuses du sexe, de leur permettre d'exercer dans un cadre plus sécurisé, de se tourner plus facilement vers la police en cas d'abus. Car reconnaître le secteur, c'est aussi lui imposer des règles. Reste que selon les spécialistes, il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir en estimer les effets. Le 17 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. À Bruxelles, chaque année, les associations organisent une manifestation dans le quartier Nord, un quartier de prostitution, mais aussi un quartier pauvre qui concentre des problèmes de drogue, d'insécurité et de nombreux individus en errance. Dans le cortège, une centaine de TDS et des personnes venues les soutenir. Le mot d'ordre, « Sex work is work », le travail du sexe est un travail. Sex work is work. Le cortège s'arrête devant l'ancienne vitrine de Nice au Sayandé. Cette travailleuse du sexe nigériane de 23 ans, victime de traite des êtres humains, qui a été violemment assassinée par un client en 2018.
On est en train de distribuer les bougies, de les allumer.
Les manifestants allument des bougies pour un moment de recueillement avant des prises de parole.
Nous avons fait une minute de silence pour Eunice, qu'on ne veut jamais oublier, car comme elle a été oubliée par la société. La sécurité des travailleuses du sexe reste un enjeu majeur à défendre. Bien que la réforme de la loi pénale en 2022 ait été une étape importante, cette situation ne va pas être résolue avec la décriminalisation seulement. Il nous reste encore de nombreux combats à mener. La violence n'est pas un risque du métier. C'est précisément ce stéréotype qui témoigne du mépris à l'égard des TDS, des travailleurs et travailleuses du sexe.
Kido, travailleuse du sexe française de 27 ans, est dans le cortège.
Au niveau social, je ne vais pas toujours dire mon métier parce que je sais que les gens peuvent devenir violents ou malveillants envers moi. Quand c'est par exemple des refus de soins ou des mauvais soins, c'est parce que j'ai dit que je faisais tel travail, du coup on ne va pas vouloir me soigner, on va le faire mal. Ça m'est déjà arrivé avec des médecins. Et j'ai eu des soucis de logement aussi, j'ai déjà été virée de chez moi parce que je n'avais pas de protection. Avec mon statut de TDS, j'avais une situation vulnérable parce que j'avais pas de fiche de paye, par exemple. J'avais accès qu'à des sous-locations, des choses comme ça. Et donc forcément, c'est plus vulnérabilisant. Et il n'y a pas de droit au logement qui s'applique dans des logements précaires, par exemple.
La décriminalisation est l'un des facteurs qui l'a poussé à venir s'installer en Belgique.
Ouais, c'est moins stigmatisé, en fait. Après, c'est mon ressenti en venant de France où vraiment là, c'est de pire en pire au niveau des conditions de travail. Et c'est un des facteurs qui m'a fait dire que bon, il y avait un feu vert là-dessus, que je pouvais exercer de manière plus sécurisée ici, quoi.
Mais Manon, quant à elle, parle de discrimination et de violences récurrentes.
Des violences, oui, bien sûr. J'ai perdu la garde de mes enfants, notamment. Alors qu'ici, en Belgique, le travail du sexe n'est pas pénalisé comme en France. Ça n'a pas empêché une juge de décider que ce n'était pas un métier compatible avec la garde d'enfants. Donc des violences quand on porte plainte à la police, où on se retrouve simplement avec nos plaintes qui sont reclassées de viol à attentat à la pudeur, les stigmates en permanence et la honte.
De l'autre côté de la frontière linguistique, en Flandre, la situation est bien différente. Le quartier rouge d'Anvers, appelé quartier des marins, est ultra sécurisé, truffé de caméras de surveillance. Ici, la municipalité n'a pas attendu la décriminalisation pour reconnaître et encadrer le travail du sexe. Dès la fin des années 90, la ville a décidé de concentrer toutes les vitrines dans trois rues piétonnes et de mettre sur pied une unité de la police locale entièrement dédiée à la prostitution, une équipe unique en son genre en Belgique. Willem Migom, porte-parole de la police d'Anvers.
Nous avons décidé de ne plus lutter contre le travail du sexe, mais plutôt de le réguler. Nous nous concentrons donc sur la sécurité des travailleuses du sexe en premier lieu, mais aussi sur celle des habitants et des clients. Toute travailleuse du sexe qui se lance à Anvers est contrôlée par l'équipe prostitution. Nous vérifions qu'il n'y a aucun signe d'exploitation, que la femme est majeure, qu'elle a décidé d'elle-même de faire cette activité, qu'elle ne subit subit pas de pression, qu'on ne la force pas à avoir des rapports non protégés, par exemple. Nous contrôlons également les propriétaires des vitrines pour être sûrs qu'ils ne sont pas liés à des groupes criminels. Tous les espaces dédiés à la prostitution à Anvers doivent également respecter des normes d'hygiène. Les matelas doivent être recouverts d'une housse en plastique lavable. Il doit y avoir des préservatifs à disposition et des boutons d'alarme sur lesquels les TDS peuvent appuyer en cas de problème.
Bonjour, nous sommes ici au Villa Pinto à Anvers. Nous l'appelons « The House of Pleasure ». C'est aussi marqué sur la façade à l'entrée du Ververstraat.
Avec son costume tiré à quatre épingles et son collier de perles, Karine van der Hel statue d'une femme d'affaires comme les autres. Elle est pourtant propriétaire de l'établissement le plus connu et le plus imposant du quartier rouge d'Anvers. La Villa Tinto, avec ses 51 vitrines occupées nuit et jour par des travailleuses du sexe, sa cour et ses allées intérieures, et même une antenne du commissariat local. Il y a plus de 20 ans, c'est la municipalité qui lui a proposé de dédier son immeuble à la prostitution. Les travailleuses du sexe peuvent y louer une vitrine avec une chambre attenante pour des cycles de 10 heures et pour une centaine d'euros.
So my name is Laure. Laure from Laura. Exactly.
And we wanted to offer them a beautiful building.
On voulait leur permettre de travailler dans un bel immeuble, un immeuble propre, sécurisé. Toute personne qui a des papiers européens et qui est majeure peut travailler ici. Chacune doit nous donner une copie de ses papiers d'identité, mais nous prenons aussi une empreinte digitale. Et c'est avec cette empreinte qu'elles peuvent accéder à la chambre, allumer la lumière et le chauffage. Et elles doivent remettre leur empreinte toutes les heures, ce qui assure qu'elles ne peuvent pas mettre une autre fille à leur place en vitrine.
Karine van der Elst soutient la décriminalisation. Elle aide d'ailleurs les travailleuses du sexe qui louent ces chambres à se déclarer comme auto-entrepreneuses. Mais selon elle, la réforme du code pénal n'a pas encore porté tous ses fruits, puisque les banques, notamment, continuent à être réticentes à octroyer des prêts aux TDS.
Il va falloir attendre encore un peu avant de voir ce que la loi va vraiment changer. La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que notre activité n'est plus illégale. Avant, il y avait un sentiment négatif autour de ce business, puisque même s'il était toléré, il était considéré comme illégal. Et pourtant, nous l'avons toujours fait avec les meilleurs sentiments et nous avons construit un commerce correct. Mais c'était quand même considéré comme criminel.
À l'étage du dessous, Mistress Kiana, de son nom de scène, est installée derrière sa vitrine. Cheveux teints en rouge, longs cils noirs et visage tatoué, cette Roumaine de 30 ans vient travailler ici tous les jours depuis plusieurs années.
J'ai travaillé dans différents endroits. J'ai travaillé en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et puis ailleurs en Belgique. Mais ici, je trouve que c'est le mieux. Parce que la Villa Tinto nous donne la possibilité d'être seuls derrière une vitrine et d'avoir une chambre individuelle. Et puis, nous avons des boutons d'alarme à côté de la vitrine, au premier étage à côté du lit, et puis aussi dans la salle de bain. Si on appuie dessus, la police vient très vite. Et puis, la location n'est pas trop chère, donc ça fonctionne bien pour moi. Et puis aussi, on se sent bien ici. Il y a une bonne atmosphère. C'est comme une petite famille.
It's like a small family. Elle est désormais déclarée sous le statut d'indépendante, soit auto-entrepreneuse.
Yes, it's a bit complicated in the beginning.
Le statut est un peu compliqué au début car on ne connaît pas bien le système. L'aspect comptable est très important. Mais je suis très contente de l'avoir fait, puisque maintenant j'ai une assurance et pour ma santé, c'est très important. Si j'ai un problème, je veux pouvoir aller à l'hôpital et avoir toutes les prestations sociales. Donc je pense que la décriminalisation est vraiment une bonne chose, parce que maintenant, chaque femme peut avoir une assurance, se faire soigner si besoin, mais aussi accéder à un prêt bancaire pour acheter quelque chose, pour se construire un futur. Je crois que la plupart des travailleuses du sexe veulent construire quelque chose pour elles-mêmes. Et si on choisit de faire cette activité, ça doit vouloir dire qu'on veut aussi le faire de manière légale, même si pour ça il va falloir payer des impôts. C'est comme pour les autres métiers, payer ses impôts, avoir une vie normale, quoi.
Tout autour, elles sont encore nombreuses à travailler au noir. Mais selon la propriétaire, beaucoup envisagent désormais de se déclarer. Le modèle anversois fait en tout cas des émules en Belgique. La ville d'Ostende, sur la côte, a ainsi demandé à Karine van der Elst d'y ouvrir une Villa Tinto.
Bonjour Laure Broulard.
Bonjour.
Vous êtes l'une des correspondantes de RFI à Bruxelles. Faire de la prostitution un métier presque comme les autres, c'est le titre de votre grand reportage. L'une de vos interlocutrices le dit très bien, c'est un métier qui contient une part d'ombre. Beaucoup d'ailleurs de vos interlocutrices ont refusé de s'exprimer au micro. Est-ce que pour autant c'est un sujet qui a été difficile à tourner ?
Oui, c'est un sujet compliqué, polémique même. Et en fait, je voulais surtout pas idéaliser la prostitution, mais je ne voulais pas la diaboliser non plus. Donc finalement, j'ai voulu aller voir ce que les prostituées elles-mêmes pensaient et puis disaient de la décriminalisation. Alors avant de commencer ce reportage, c'est vrai que je connaissais assez mal le secteur. J'étais un peu nerveuse en fait à l'idée d'aller toquer aux vitrines des travailleuses du sexe à Bruxelles. Finalement, le contact était assez simple et facile, même si, vous l'avez dit, beaucoup de travailleuses du sexe n'aiment pas trop être enregistrées pour des raisons d'anonymat qu'on comprend.
Oui, donc une réalité différente et également des discours très différents, presque opposés sur la prostitution selon les personnes à qui on s'adresse.
Oui, et c'est parfois assez difficile à démêler. Il y a par exemple Muriel, qu'on entend dans le reportage, cette travailleuse du sexe de 70 ans, donc qui me disait hors micro que c'est son théâtre, qu'elle préfère faire ça plutôt que de rester chez elle à tricoter. Et puis juste après, une de ses amies qui vient lui rendre visite et qui me dit, elle, qu'elle a arrêté le travail du sexe parce qu'en fait, elle ne supporte plus d'avoir une seule main sur elle, que c'est véritablement insupportable. Donc voilà, on ne peut pas faire abstraction de cette violence, évidemment. Et puis en ce qui concerne la décriminalisation en tant que telle, alors il y a des travailleuses du sexe qui sont très engagées, qui suivent l'évolution de la loi de très près, qui la soutiennent. Mais il y en a plein aussi qui semblent pas vraiment être au courant, qui parlent ni français ni anglais, qui parfois ne restent que quelques mois en Belgique avant de bouger ailleurs, aux Pays-Bas ou en Allemagne par exemple. Et donc voilà, ça pose encore beaucoup de questions sur à qui et comment va profiter cette loi.
À l'horizon de cette loi sur la prostitution, vous nous dites que l'une des étapes pourrait être le salariat. De fait, ça reformule la question du proxénétisme.
Le proxénétisme ne serait plus simplement le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui, puisqu'un patron pourrait le faire légalement. Ce serait de tirer des profits anormaux de la prostitution d'autrui, donc avec des sommes trop élevées, donc ce qui représenterait de l'exploitation. À voir comment sera défini le profit anormal, et ça c'est une des grandes questions qui reste à définir dans cette loi.
Laure Broulard, une dernière chose, parmi toutes les femmes que vous avez rencontré pour les besoins de ce grand reportage, est-ce qu'il y en a un portrait qui vous a le plus marqué ?
Oui, alors c'est vraiment Muriel, la travailleuse du sexe belge de 70 ans, qui travaille donc dans une des rues du quartier nord à Bruxelles. C'est d'ailleurs en fait une rue où il y a beaucoup de travailleuses du sexe de cet âge-là, ce qui moi m'a en fait beaucoup étonnée parce que j'imaginais pas du tout qu'on puisse continuer à être travailleuses du sexe à cet âge-là. Et donc elles ont énormément d'humour. Elles appellent par exemple leur coin de rue le cimetière des éléphants. Elles ont un langage assez extrême. Elles revendiquent le mot pute, par exemple, comme étant pas du tout une insulte. Et voilà, c'était vraiment un personnage haut en couleur, à la fois extrêmement touchant, qui m'a énormément marquée et qui montre aussi en fait toute cette diversité et qui montre aussi qu'on a plein d'idées reçues. Donc là, je parle plutôt en termes d'âge sur les travailleuses du sexe et sur ce que peut être le secteur de la prostitution.
Merci, Laure Broulard, pour ce grand reportage. Le supplément au grand reportage réalisé cette semaine par Ludivine Amado et Eva Piedel. Demain, émission spéciale, un an après le début de la guerre au Soudan, nous serons avec tous ceux qui ont dû quitter leur pays, réfugiés dans la précarité au Soudan du Sud et en Égypte, envie de revenir ou de se bâtir une nouvelle vie. Avec Gaëlle Alex et Léonie Lebrun, nous entendrons ces déracinés. Gaëlle et Léonie témoigneront elles aussi de ce qu'elles ont vu. Ce sera à 9h10 temps universel. Dans un instant, le journal.